Bienvenue dans la réserve de Vitry, le podcast de la galerie municipale Jean Collet. À chaque épisode, nous explorons une œuvre, sa démarche et l'univers de l'artiste. Bonne écoute!
En ouverture de l'exposition Eternal Sunshine de la galerie municipale Jean Collet, on trouve un tableau. Pas très grand, il semble lourd. Ce n'est pas une toile, plutôt du bois. En son centre, un dessin, au trait naïf comme celui d'un enfant. La femme, portant une robe à bretelles bleues flashy, nous saute aux yeux. Ce bleu, il est électrique. Le bleu le plus fort que l'on peut trouver sur une palette de gouache. Les connaisseurs le qualifieront de bleu clin, mais l'artiste, lui, connaissait-il déjà ce qualificatif? La dame, elle est blonde, aux cheveux courts, un collier de perles noires et rouges, des boucles d'oreilles, des yeux plus sombres comme maquillés, et des petites chaussures noires à talons. Flamboyante, elle semble nous demander de la regarder, ou alors c'est nous qui ne pouvons pas nous arrêter de l'observer. Sous ses talons noirs, plantés dans le papier, un titre écrit au crayon, dans une écriture maladroite. La fée Minuta. Le dessin, lui, est comme plaqué sur le support, et encadré de gris. La matière, sèche, s'apparente presque à une éponge cotonneuse, mais en s'approchant, comprend. C'est du ciment. Bloqué alors dans son cadre de ciment, le dessin devient l'un des éléments du maillage d'un mur, comme une brique de poésie dans l'architecture, ou une empreinte que l'on aurait laissée dans le ciment frais. Sur la surface, comme posé délicatement en bleu, le mot « fée » revient, en écriture attachée, celle que l'on apprend quand on commence à écrire. Il semble se détacher du tableau, comme s'il flottait dans l'air. Un mot magique que l'on nous murmurerait avec insistance, ou bien que l'on nous crie et répète indéfiniment. Une obsession pour la fée, comme pour nous souffler la nature de cette dame, qui nous regarde et que nous regardons. Mais est-elle vraiment une fée? Ce tableau de l'artiste Dorothée Seltz a deux dates, 1952 et 2000. Un élément lui aussi mystérieux sur la nature de cette œuvre. Nous avons rencontré Dorothée pour qu'elle nous raconte l'histoire de ce tableau enchanté.
Dans un premier temps, racontez un petit peu l'histoire de cette fée.
Mes parents allaient dans cet endroit, c'était comme un petit port de pêcheurs. Ibisan, c'était une petite île qui vivait de manière très simple. Les gens avaient des potagers, il y avait des exploitations, des grandes salinas, donc des exploitations de sel. Mais enfin, c'était une île pas très riche et les pêcheurs pêchaient tous les jours pour se fournir en poissons, etc. Donc c'était une vie, on allait là-bas loin parce que mon père y avait vécu, il était resté nostalgique de ce bel endroit, mais la vie était extrêmement simple. Et donc, nous, les enfants, on portait des sandalettes, tout le monde s'habillait de manière très simple. Mes enfants et mes parents allaient prendre un verre l'après-midi dans l'un des seuls petits bars du village où on était, qui était à côté d'Ibisaville. Et donc, il y avait là une année, donc c'était en 1952, on y allait chaque année, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, on y allait chaque été. Et donc là, une année, on voit assis à cette table une dame, une femme blonde, très bien habillée, espagnole, parce que là-bas, il n'y avait pas de touristes à l'époque, et qui me fascinait, parce que je la trouvais très très belle, extraordinaire, magnifique. Je sais pas, elle m'avait impressionnée par sa beauté, selon moi, son allure, son apparence, enfin, je ne sais pas très bien. En tant qu'enfant, je fais une parenthèse, mais je dessinais, je gribouillais, ou à l'aquarelle, je faisais tout le temps des petits dessins. C'était très courant chez moi. Et mes parents m'avaient acheté une petite boîte métallique, vous savez, avec des pastilles, il y avait deux pinceaux, un gros et un fin. Et sur des papiers, ben je dessinais et je coloriais mes propres dessins. Donc, à l'époque, j'ai dessiné cette dame et j'avais entendu dire qu'elle s'appelait Minuta, ce qui est bizarre parce que même en espagnol, ça veut dire minute.
Oui.
Et donc, moi, je l'appelais la fée Minuta. Et pour moi, c'était une fée. J'avais dit à mes parents, on a de la chance d'avoir une fée près de nous. Et alors, je suppose qu'ils m'avaient dit oui, 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 etc. Alors, en fait, je vous raconte toute cette histoire parce que je l'avais totalement oublié, et c'est vers les années 1997, qu'en triant des papiers de mes parents, je suis tombée sur une liasse de papiers avec beaucoup de dessins que j'avais fait enfant, y compris ce dessin. Mon père était un homme qui avait un esprit collectionneur. Il s'intéressait beaucoup à l'art populaire, à l'art brut, à l'art contemporain. En fait, il avait l'art de garder les choses et donc il avait gardé ses dessins. Je savais que je dessinais, mais en revoyant ses dessins, j'ai eu une sorte de choc parce que j'ai reconnu certains dessins. Sinon, je ne me souvenais pas du tout quel dessin j'avais pu faire. Et c'est en revoyant la Féminuta, parce qu'aussi, si vous regardez bien la pièce, sous l'aquarelle que j'ai faite, il y a écrit au crayon La Féminuta.
Oui, il y a le titre déjà.
Il y a le titre, voilà. Et si j'ai écrit le titre maladroitement, parce que j'avais 6 ans à l'époque, c'est que vraiment ça devait compter pour moi, je suppose. Et si j'avais pas vu le titre, je vous aurais dit, mais c'était une dame comme ça. En revanche, ça a joué sur la mémoire, c'est ça que je trouve amusant en fait, même touchant. C'est en revoyant ce dessin que je me suis souvenue de, brutalement comme ça, de beaucoup de visions de ces moments-là de mon enfance. La Féminuta, elle a deux dates, c'est-à-dire 1952, qui est le moment où j'ai fait ce petit dessin de ce personnage fascinant pour moi, et d'autre part, l'année 2000, qui est l'année où je me suis décidée à maroufler ce dessin original sur un fond, et autrement dit, c'est l'original qui est là. Sauf que dire pour un enfant c'est un dessin original, ça a l'air un peu prétentieux, mais moi j'ai aucune prétention, c'est juste que je voulais pas copier mon dessin. Mon père avait quand même un œil de collectionneur, donc je pense que c'est pas la beauté d'un dessin qui l'intéressait, mais la trace, un peu comme moi. Et peut-être qu'il s'est dit que si un jour je tombe sur ça, il se passerait ça, c'est possible.
Il avait prévu ça.
Je ne sais pas. Il était assez malicieux, donc je ne sais pas. Alors je vous parle aussi d'un détail, c'est comment j'avais des feuilles pour dessiner. Et ben je les chipais. Parce qu'en fait, mon père était journaliste et à la maison, dans le salon qui servait également de chambre à coucher pour mes parents, il y avait une table, il y avait plusieurs tables. Et l'une de ces tables, c'était son bureau, en fait, où il y avait toujours plein de papiers, des livres, une sorte de foutoir sympathique. Et au centre, où il y avait un peu plus de place, et il y avait toujours un endroit, au même endroit, il y avait une pile de papiers A4. Et ils étaient là. Et lui, il écrivait tout. Alors, il écrivait des articles de temps en temps, des chroniques pour son journal. Il travaillait au journal Elle à l'époque. Et il n'y a jamais eu une machine à écrire à la maison. Tout était manuscrit. Il écrivait que avec ses stylos. Il avait une écriture, en fait, en pâte de mouche. J'ai eu beaucoup de mal à déchiffrer son dessin, justement. Et donc, comme il y avait des petites piles de feuilles, prendre une feuille ou deux, ça se voyait pas trop. De toute façon, c'était un vol admis, si je puis dire, parce qu'on m'a jamais empêché de dessiner.
Oui, il le savait quand même que vous.
Oui, bien sûr. Mais je veux dire, c'était là que la source du papier.
Peut-être pour ça qu'il l'a laissé sur le bureau.
Peut-être aussi. Enfin, il en avait besoin pour lui, mais c'était pas le papier. Et en revanche, comme il savait que j'aimais dessiner, mais j'avais j'avais des crayons de couleur et j'avais ces petites boîtes d'aquarelle en métal, vous savez. Donc c'était soit de l'aquarelle, soit de la gouache.
Okay.
Avec, on met un peu d'eau et puis ça, la couleur.
Parce que vous aviez, il n'y avait pas de feutre à l'époque.
Non, j'ai connu des feutres beaucoup plus tard.
La fée, c'est donc l'histoire d'une obsession. Celle d'un enfant pour cette dame, mais aussi celle de l'artiste pour les images, toutes les images. Quand Dorothée rencontre une image, avant de la peindre, elle l'apprivoise, passe du temps avec elle, attend qu'elle lui murmure sa signification. L'artiste va ensuite la traduire, dans la mise en scène, la seconde vie de cette image.
J'ai décidé de faire une grande série que j'ai faite, et que il y a une partie que j'ai encore, en utilisant mes propres dessins, parce que ce qui m'a frappé, c'est le souvenir que ça peut provoquer, et aussi au-delà de moi-même et de ma propre enfance, c'est l'enfance de tout le monde, c'est-à-dire les traces qu'un individu s'efforce de faire pour ne pas oublier quelque chose. Tout mon travail est toujours basé sur une image, quelle qu'elle soit, que je montre et que je démonte et que je réactive et je tourne autour de cette image. Et en fait, quels que soient les sujets qui sont très variés, ça peut être la science-fiction, ça peut être les dessins d'enfants, ça peut être des cahiers d'écoliers, ça peut être mon enfance. Alors c'est là où je peux en venir au sujet nous concernant et vous concernant. Je travaille à partir d'une imagerie existante à laquelle je donne une seconde vie. D'accord. Que ce soit ce dessin-là, ou d'autres dessins, ou une autre image n'ayant rien à voir avec moi-même, il y a un très long temps où il faut que le dessin et moi, ou l'image et moi, il faut qu'on s'apprivoise l'un l'autre. Mmh. C'est que je passe très longtemps à regarder. C'est un travail silencieux qui se passe de témoin et que je ne sais pas comment vous commenter. Mmh. Vous savez, quand on pense à quelque chose, et si on y pense et on tourne, et on ressasse cette idée. Alors j'aime beaucoup devenir obsédée par quelque chose. C'est-à-dire,
je comprends.
Quand j'ai une idée en tête concernant... Il paraît aussi pour d'autres choses. Il semblerait que je suis un peu têtue, je ne sais pas.
Je crois que c'est une caractéristique qu'on retrouve chez beaucoup d'artistes, j'ai l'impression.
Je suis probablement extrêmement têtue. Et alors, j'ai l'art de répéter 1000 fois la même chose quand j'ai une idée en tête et de revenir sur le truc. Donc en fait, j'ai qu'une envie de vous dire, en souriant et en riant, je deviens obsessive. Mm. C'est l'obsessive image, c'est l'image obsessive.
Une série qui traduit aussi ce besoin qui existe dès l'enfance, celui de garder des traces, et que l'on retrouve dans la manière dont elle retravaille et remet en scène ce tableau. Et
donc, alors là, comment est-ce que j'ai travaillé la chose? Alors, j'ai marouflé le dessin original sur une surface de bois. Entre le dessin lui-même et le bois, il y a également une feuille de papier, que le dessin soit bien plat, l'aspérité du bois. Et ensuite, le tour du dessin est comme un encadrement que j'ai fait à la spatule.
D'accord.
Avec du ciment-colle. Le ciment-colle, c'est une matière assez rude, un peu ingrate, grise ou gris pâle, qu'on peut colorer très facilement avec des peintures acryliques. Et ce ciment-colle sert pour coller, par exemple, les carreaux de céramique sur des murs. Mmh. Soit dans des salles de bain ou des cuisines ou n'importe où. Donc, c'est une colle avec du ciment dedans et quand ça sèche, il faut que ça sèche un certain temps et que toute l'humidité s'évapore, c'est extrêmement solide. Mm. C'est un matériau très costaud. Il faut taper dessus au marteau pour le casser ensuite. Tout le travail pictural ajouté autour de cette image de la fée est fait avec du ciment-colle. La partie du tracé, alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas trouver autre chose que d'écrire plusieurs fois le mot fée.
Oui, et ça je trouve ça drôle parce que du coup maintenant que vous racontez cette histoire de l'obsession,
oui.
Je trouve que justement cette idée de l'écrire plusieurs fois comme ça, ça re-rappelle cette idée-là.
Ben, l'obsession elle est là, en fait c'est une fée, voilà, je vous présente une fée, c'est la fée. Alors c'est écrit en grand un peu partout, donc ça déborde jusqu'au bord, où quelquefois le mot est un peu coupé ou l'accent se balade, il faudrait revoir l'image exacte, mais je ne voyais pas autre chose comme graphisme que la fée soit elle-même recouverte de son mot, de son nom, c'est-à-dire le nom que je lui ai donné, qui est Madame Fée, quoi. Mm. Mais par exemple, concernant les fées, vous savez, c'est un mot qui hante un peu les enfants. Alors, je ne sais pas comment aujourd'hui, chaque enfant, garçon ou fille, vit l'histoire des fées, mais enfin, ça fait partie des contes dont on vous parle. Il y a des livres d'enfants qui parlent de fées. Quelquefois, elles sont illustrées, donc il y a des fées qui sont dessinées, voir au cinéma, dans des dessins animés. Voilà, donc j'avais vu des dessins animés, à l'époque j'en avais probablement pas vu, mais des livres avec des illustrations de fées, j'en avais vu. Donc, je sais pas, il y avait la fée Carabosse qui faisait peur, il y avait des bonnes fées, des mauvaises fées, enfin le mot fée, ça faisait partie de mon univers.
Oui, c'est...
Mais en revanche, à Ibiza, quand j'ai vu une vraie fée, là, j'étais époustouflée parce que jusqu'à présent, on m'avait pas présenté une vraie fée. Et vous savez comment sont les enfants quand ils ont une histoire en tête, c'est pour de vrai.
Mmh. Ah oui, c'est obsessif du coup.
C'est obsessif. C'est complètement obsessif. Ici. Voilà, ils font pas la différence. Pour eux, c'est la réalité, quoi. C'est vrai. Donc pour moi, si je l'ai appelée la fée Minuta, et je me souviens que j'avais pas mal envahi mes parents cet été-là avec la fée Minuta, et je me souviens que j'avais demandé à ma mère pourquoi elle s'habillait pas comme la fée Minuta, etc. Parce que si vous voulez, c'est pour ça que je vous ai parlé du contexte simple de ce village de pêcheurs, parce que là-bas, tout le monde était en espadrille, avec des vieux pantalons, des vieilles chemises. Le Ibiza, s'il y avait un Ibiza chic à l'époque, nous, on l'a pas connu, on vivait un Ibiza rural, un petit village... de pêcheurs, comme il y en a des milliers sur Terre, il y en a partout en Bretagne et tout, sauf que c'était à Ibiza à cause de l'histoire de mon père dont je vous ai parlé. Mais personne ne s'habillait de manière chic ou étincelante. J'ai remarqué sur le dessin, parce que j'ai fait des photos de près aussi, en fait elle a un collier et une bague.
Ah,
elle a une petite bague rouge au doigt et elle a un collier. Et là, une robe un peu décolletée d'un joli bleu.
Oui, bah, le bleu sur le dessin est tellement aussi ressort tellement et tellement oui. étincelant.
Oui, c'est un beau bleu.
C'est comme si on voyait l'obsession de l'enfant à travers ce bleu tellement puissant. On voyait un peu je trouve qu'on voit l'obsession de l'enfant derrière ça.
Vous avez un bon œil parce que c'est tout à fait ça. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le mot fée, il est écrit avec une poche à douille. C'est-à-dire que lorsque les pâtissiers veulent écrire, par exemple, sur un gâteau « Bon anniversaire », ils mettent une crème, quelle qu'elle soit, ou une pâte à sucre, dans une poche avec un embout qui s'appelle une douille. C'est-à-dire un embout qui peut être crénelé ou rond. Et donc, on appuie avec la main et la matière sort et avec la main, on fait ce geste. Et en fait, je me sers de poche à douille depuis très très longtemps, dans lequel je mets non pas de la crème pâtissière, mais ce ciment colle avec la couleur que je souhaite. Et là, j'avais utilisé un bleu un peu vif, un bleu outre-mer, et j'ai écrit avec cette poche de pâtissier. Donc, si on connaît l'histoire, ça peut faire sourire, parce qu'en fait, effectivement, la douceur de la pâtisserie, le décor un peu désuet des pâtisseries, etc. Je ne sais pas si on peut ramener ça à l'enfance. En tous les cas, on peut surtout l'identifier avec quelque chose d'un peu futile. J'aime bien l'idée que quelque chose ait l'air un peu idiot, un peu futile. Ça me plaît beaucoup.
J'aime bien aussi, justement, la manière dont vous l'avez écrit, la fée. Parce que ça rappelle justement ce moment, ce traçage, le F comme ça qui est un tracé de quand on apprend à écrire.
Oui,
justement.
Absolument.
D'ailleurs, j'ai un petit enfant, ça va vous faire rire parce que j'ai fait une visite hier.
Oui.
Et sur le premier, vous savez, il y a sur le fait qui va sur le dessin. Qui est vraiment en travers comme ça en diagonale. Le F est un peu le début du F est un peu de travers, un peu à l'envers. Et il l'a remarqué et il m'a fait le F il est mal fait.
C'était lequel ?
Voilà, c'est celui-ci où en fait le F est fait à l'envers et ensemble par rapport à voilà parce que là commencez bien la boucle ici.
Oui.
Et là, en fait, le F et la boucle n'avaient pas commencé ici. Ils sont en CE1.
Il a raison.
Et ils sont vraiment dans l'application de l'écriture pure et dure.
Oui,
et du coup, ils l'ont fait remarquer.
Non, là, j'ai fait une faute.
Vous aviez aussi, dans la série Enfance, utilisé, outre les magazines et les dessins, vous aviez aussi réutilisé des cahiers d'enfants.
J'ai toute une série qui est là, mais j'en ai encore quelques-uns. Parce que j'ai retrouvé aussi des petits cahiers d'écriture avec A, E, O, U et tout ça que mes parents avaient gardé. Et là aussi, ça m'a vraiment frappée. Donc, j'ai repris les pages de ces cahiers-là, je les ai marouflées et j'ai réécrit dessus. C'est une espèce de dialogue, j'allais dire invisible, non, puisque du coup, il est visible, mais c'est une espèce de dialogue silencieux entre plusieurs époques, quoi. Donc, ça parle d'une manière générale du tracé que peut faire n'importe quel individu. Et là, accessoirement, uniquement avec ses dessins d'enfants, le support, ce sont mes propres dessins.
Oui, mais des dessins qui aussi, du coup, nous rappellent les dessins que nous-mêmes, on a fait en tant qu'enfant.
Oui, parce que beaucoup d'enfants ont dessiné des personnages, ou des animaux, ou des maisons.
Cette œuvre, elle raconte en elle-même beaucoup de travail de l'artiste. Les couleurs, le rapport à la futilité et l'utilisation de la cuisine.
D'ailleurs, je rebondis aussi sur la poche à douille que vous utilisez pour faire avec le ciment colle, parce que ça a un rapport aussi avec un peu le reste de votre travail.
Oui.
Et votre rapport. Enfin, je trouverais ça intéressant que vous nous parliez un petit peu de toute cette partie sculpture et comment vous utilisez la nourriture aussi dans le reste de votre travail que pictural.
Donc en fait, en résumé. Alors j'ai su très vite, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, je n'ai pas d'explication, que je voulais dessiner et peindre. Je ne voulais rien faire d'autre en fait. Je n'ai pas eu un choix compliqué à faire parce que j'ignorais complètement ce que ça signifiait. C'était comme ça très naïf. Mais quand j'ai commencé à faire des collages et des peintures et des choses un peu réfléchies, etc., vers l'âge de 17-18 ans, comme ça. Assez vite aussi, j'avais été influencée par ce dont j'avais entendu parler autour de moi, c'est-à-dire des gens qui faisaient des sortes d'actions, des sortes de performances. Il y avait un endroit à Paris qui s'appelait l'American Center, qui était boulevard Raspail. Ça m'a appris plein de choses et j'ai découvert tout ce monde. On pouvait créer un peu en dehors de la peinture et de la sculpture, donc une manière de s'exprimer qui était plus proche, on pourrait dire, de la scène, du théâtre, de la poésie parlée, ou de la danse aussi, ou de la musique, voilà. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu envie d'utiliser le comestible dont nous avons besoin pour vivre, pour se nourrir, et de l'utiliser comme étant des ingrédients comme un autre. Et donc, j'ai commencé à faire des repas et des sortes de petites mises en scène à l'horizontale, sur table, à colorer le riz et les purées de pommes de terre, à colorer tout ce que je pouvais colorer, et à métamorphoser l'ordinaire par quelque chose d'extraordinaire. Et c'était pas coloré de manière pâle, c'était coloré de manière vive. Quand on a un poisson ou un poulet avec du riz bleu turquoise ou rouge vif ou vert vif, etc., ou un gâteau qui a une tarte aux pommes où toutes les pommes sont multicolores, ou bien un gâteau comme celui dont il y a la photo derrière vous qui est une sorte d'arc-en-ciel un peu délirant. Voilà, donc j'ai voulu que les gens partagent un moment insolite, puisque je les conviais, et qu'ils partagent un moment insolite par le comestible. Alors, j'ai eu la chance, en 1971, de rencontrer Daniel Spoerry, qui lui-même, à l'époque, c'était un homme qui avait déjà fait énormément de choses. Il était un adulte dont la carrière était déjà très confirmée et qui a beaucoup utilisé le comestible comme action de partage, action et réaction, on pourrait dire, parce que la manière dont les gens réagissaient face à son travail était très important. Alors, en tous les cas, il a beaucoup compté pour moi parce que, avec un autre artiste qui s'appelle Anthony Miralda, nous avions fait un grand banquet coloré dans un restaurant qu'il venait d'ouvrir en 1970 à Düsseldorf. Et en 71, on a fait un repas coloré, un banquet coloré chez lui. Donc en fait, j'ai manié la poche à douille pour faire des décors de gâteaux. Et j'ai fait des gâteaux dont les sujets n'étaient pas des sujets pâtissiers, des gâteaux sirènes, des gâteaux chambre à coucher, des gâteaux salle de bain, en mettant des miniatures qui servent pour les enfants, justement, vous savez.
Comme des petites maisons de poupées.
Comme des petites maisons de poupées, voilà. Toutes les miniatures qui peuvent servir pour les architectes quand ils veulent habiter un peu leur plan d'architecture. Pas leur plan, mais leur maquette d'architecture, voilà. Donc j'ai hanté un peu les maisons qui, pour jouer d'ailleurs, qui vendaient des miniatures. Et ce monde en réduction m'amusait beaucoup et j'ai fait des gâteaux, pas forcément mangeables d'ailleurs, mais quelquefois mangeables. Mais voilà, donc c'était aussi une dérision, c'est pour ça que j'aime bien quand quelquefois le matériau semble être pas sérieux.
Faire de l'ordinaire quelque chose d'extraordinaire. À travers ce tableau, Dorothée nous pousse à garder nos dessins, pour pouvoir les transformer et les sublimer, et ainsi nous reconnecter à notre mémoire d'enfant. Venez découvrir la Féminuta dans l'exposition Eternal Sunshine, jusqu'au 29 mars à la Galerie Municipale Jean Collet.